Juifs et chrétiens en dialogue, une émission présentée par Maddy Verdon.
Bonjour Meir Siboni. Vous êtes notre invité aujourd'hui afin que nous parlions ensemble de l'importance que revêt la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive qui va être célébrée dans quelques jours par toutes les communautés juives de par le monde. Vous allez nous donner votre perception personnelle de cette fête. Meir Siboni, vous faites partie de la communauté juive de Nantes. Et après avoir vécu votre jeunesse en Israël, après avoir étudié le Talmud en yeshiva, c'est-à-dire en maison d'études, vous êtes en France depuis une vingtaine d'années, marié et père de famille. Alors Pessah célèbre un événement fondateur qui marque la naissance du peuple juif. Pour cela, il faut remonter à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, qui, chassé par ses frères, vint s'installer en Égypte et qui reçut à ce moment-là la confiance du pharaon. Seulement, les générations se succédèrent, les pharaons aussi, et ces derniers finirent par rendre esclaves tous les Hébreux qui habitaient en Égypte. Et si vous le voulez bien, Meir, avant que nous entamions notre conversation, bien, je vous propose d'écouter un extrait d'Exode 12 qui nous parle des préparatifs à cette sortie d'Égypte.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. On prendra de son sang et on en teindra les deux poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. Et l'on en mangera la chair cette même nuit. On la mangera rôtie au feu, accompagnée d'azimes et d'herbes amères. Et voici comment vous la mangerez. La ceinture aux reins, les chaussures aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête. Et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel. Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe. Je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai. Et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un jour mémorable. Et vous le fêterez comme une fête pour l'Éternel, de génération en génération, à jamais, vous le fêterez.
Meir Siboni, comment définissez-vous la fête de Pessah après cette lecture?
Bonjour Maddy, bonjour Pierre. Avant de parler de la définition de la fête de Pessah, je voudrais tout d'abord rappeler en quoi consiste cette fête. Cette année, 2011, elle commence mardi 19 avril, c'est-à-dire lundi soir, et se termine 8 jours plus tard, le 26 avril. Pendant la période de Pessah, il est interdit de consommer le chametz, c'est-à-dire tout pâte levée qui provient de 5 espèces de céréales. Il faut consommer du pain azim, les fameuses matzot,
oui,
et de chômer à différents degrés pendant ces 8 jours. Pour définir la fête, je dirais qu'elle s'articule surtout autour de la notion de la liberté.
Oui. Mmh. Si vous le voulez bien, nous allons d'ailleurs nous attacher à la signification du mot Pessah. Qu'est-ce qu'il signifie en hébreu et de quel passage s'agit-il?
En effet, malgré que la fête de Pessah est appelée, comme vous avez dit tout à l'heure, elle est appelée dans le texte Chag HaMatzot, la fête du pain azim, nous avons pris l'habitude, vous l'avez vous-même, l'appeler, la désigner par Chag HaPessah.
Oui.
La fête de Pessah. Cela prend son origine du récit des préceptes qui avaient été donnés à ceux qui sortirent d'Égypte. Il a été demandé aux Hébreux de se procurer, comme il a très bien lu Pierre, un agneau, de le dinissan, le sacrifier et de badigeonner du sang, de son sang, les montants et les linteaux de leur maison. Et ça a pour but, et je cite, Exode 12, verset 13, « Vehaya haddam lachem leot al habbatim, asher atem sham » וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית אני אדוני et je traduis
oui.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point le plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Donc le mot Pessah veut dire passer ou sauter.
Oui.
Une action qui épargne les Hébreux de la dixième plaie, la mort des premiers-nés. Et sur ce sujet, je voudrais rajouter que pour comprendre la signification du sacrifice de l'agneau, il faut savoir que dans l'Égypte ancienne, l'agneau était un animal sacré et représentait une sorte de divinité. Et le fait que dans chaque foyer, des Hébreux, on amena un agneau pour le sacrifier, ça a interpellé les Égyptiens, les voisins,
oui.
Qui se demandaient qu'est-ce que signifient tous ces préparatifs.
Puisque c'était une idole.
Voilà. Et les Hébreux, ils ont répondu d'ici 4 jours, ça veut dire on est le 10, le 14, le jour de sortie d'Égypte, sur l'ordonnance de notre Dieu, nous devons immoler cette brebis. Ce qui était pour les Égyptiens, cet acte, c'était un sacrilège.
C'est un sacrilège, puisque effectivement, c'est une idole, c'est un dieu pour l'Égyptien.
Voilà. Cet acte, qui est la première mitzvah, la première ordonnance donnée aux Hébreux, avait pour but de montrer leur détermination d'abandonner l'idolâtrie en plein jour.
Oui. Et effectivement, c'est très intéressant d'entendre que cet agneau était représenté un dieu pour l'Égyptien et au contraire, bien Dieu demande à l'Hébreu de sacrifier cet agneau. Donc voilà pourquoi, et en plus de protéger les Hébreux avec le sang hein, sur les maisons. D'où ce mot Pessah qui signifie « passage ». Ce que d'ailleurs, chez les chrétiens, quelquefois, on pense que le passage, il s'agit du passage de la mer Rouge. Or, non, hein, la signification, pas du tout. Là, c'est le passage de l'ange et de la dixième plaie d'Égypte. Alors, plus encore que faire mémoire à Pessah, toutes les familles juives revivent le temps de la sortie d'Égypte. On peut dire qu'elles l'actualisent chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien ça qu'il faut dire et de quelle manière ça se passe?
Oui, en effet, cette question est intéressante du point de vue psychologique. Et que nos sages, déjà, ils ont répondu par l'adage talmudique « Bechol dor vador, chayav adam lirot atzmo ke ilu u yatsa mi mitzrayim » À chaque génération, on doit se considérer comme si l'on était soi-même sorti d'Égypte.
Oui.
Alors, pour concrétiser cela, nous pratiquons depuis des siècles ce qu'on appelle le Pessah des générations. Depuis que le temple a été détruit en l'an 70, le sacrifice pascal a été supprimé. Il ne nous reste plus que les préceptes essentiels de la fête. Manger du pain azim, boire les 4 verres de vin,
oui.
Manger des herbes amères et tous les autres rites de la veillée pascale, appelée Seder Pessah, ordre de Pessah.
Oui, et le rituel de Pessah, il se passe à la maison, en famille ou à la synagogue?
Il se passe surtout à la maison.
À la maison, oui. Et je crois qu'on y lit la Haggadah, Qu'est-ce que c'est la Haggadah?
En effet, le Seder de Pessah est un rite essentiel à cette veillée pascale. Seder veut dire ordre,
oui,
dans le sens de déroulement des multiples gestes. Nos sages, on a institué 13 étapes du Seder, probablement parce que ce chiffre est en relation avec les 13 attributs divines révélés à Moïse. La libération d'Égypte est, à ce point de vue, une manifestation de la divinité. Au centre de Seder, on trouve le plateau, qui consiste le support essentiel de la cérémoniale de la soirée.
Voilà, le plateau sur la table, donc au cours du repas.
Voilà. Et parmi ces 13 étapes, il y a ce qu'on appelle Magid, la Haggadah. Oui. La Haggadah, elle vient de la racine de mot hébreu, le Haggid, la parole. L'événement de la sortie d'Égypte, il ne serait pas célébré simplement par des gestes, par des festivités ou même par le simple discours. Il doit revivre sous la forme d'un récit, d'un dialogue. Aussi, l'événement n'est plus un passé mort et révolu, il devient vivant, actuel. Il a concerné nos ancêtres, mais il concerne les Juifs à chaque génération. Ainsi, nous réussissons à nous imprégner davantage, à imprégner nos enfants du récit de cette sortie d'Égypte.
Voilà, et de son actualisation, oui. Bien, écoutez, arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, pour écouter un air traditionnel chanté à Pessah, Manishtana. Qu'est-ce que ça veut dire, Manishtana?
Manishtana, ça veut dire en quoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits.
Voilà, nous l'écoutons.
מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מרור. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מרור. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה הזה, הלילה הזה, שתי פעמים. הלילה הזה, הלילה הזה.
Oui, à propos de ce Seder, Meir Siboni, est-ce que d'abord c'est un moment de transmission très très fort et les enfants, je crois, sont appelés à participer? De quelle manière et quelles questions posent-ils?
Alors, justement, cette chanson avec cet air très 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 populaire, Manishtana, après l'introduction du récit, le plus petit des enfants, en âge de parler,
oui,
pose 4 questions. Et qui commençons par Manishtana. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Donc, tout est mis en œuvre pour éveiller la curiosité des enfants. Alors, indépendamment de l'intérêt pédagogique, bien sûr, de la question en elle-même est l'expression de l'homme libre. Par exemple, les prisonniers n'ont pas le droit de poser des questions. Et l'enfant est tout particulièrement indiqué pour manifester cette liberté.
Oui.
Les 4 questions qu'il pose sont toutes axées autour de cette idée de liberté. Par exemple, une des questions, pourquoi nous mangeons accoudés sur le côté gauche? La réponse est, car c'est une marque de liberté. Vous voyez dans tous les films d'époque, on voit les, par exemple les Grecs, les Romains,
absolument.
Accoudés sur la gauche en train de manger, c'est des hommes libres.
Tout à fait. Oui, 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 c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi?
Toutes les autres questions sont axées sur la même chose, sur la liberté.
Elles ne sont pas forcément ritualisées. Ça peut être aussi de la part de l'enfant, il peut poser aussi ses propres questions.
Non, ils sont ritualisées.
Elles sont ritualisées, oui. C'est très important, hein, la participation de l'enfant. Et c'est beau cette symbolique de la liberté de l'enfant. Oui. On dit aussi que Pessah est une fête de pèlerinage. Et pourquoi ?
En effet, Pessah, c'est une des trois fêtes de pèlerinage prescrites dans la Torah. C'est marqué 3 fois dans l'année, tes hommes apparaîtront devant l'Éternel, ton Dieu, dans l'endroit que je choisirai à la fête de Matzot, à la fête de Semaine, c'est la fête de Shavuot, à la fête de Sukkot, c'est en Deutéronome 16-16.
Oui.
Chaque individu était ainsi tenu à se présenter au temple de Jérusalem. À Pessah, il a apporté l'omer d'orge. L'omer, c'est une quantité d'orge.
Oui.
Et au contact du temple, chaque juif, il renoue l'alliance avec l'Éternel. Cet instant était comparable à ceux vécus au pied du mont Sinaï, quand le peuple a reçu les 10 commandements. Et au point de vue historique aussi, les grandes décisions juridiques, religieuses et politiques était rendu public lors de ces rencontres.
On donne plusieurs noms à cette fête de Pessah. Est-ce que vous pouvez nous les indiquer?
Alors, les deux autres noms sont Chag HaAviv, la fête de printemps,
oui,
car c'est le moment de la germination du blé. Et le blé, cette germination s'appelait Aviv.
Oui.
Et Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Bien sûr, car notre peuple a été libéré à cette occasion.
Oui, et là donc aussi la fête de Pessah.
Oui.
Alors, c'est vrai que la nature est souvent associée aux grandes fêtes juives. Et je pense que là-dedans, il ne faut pas oublier que Dieu a confié le monde à l'homme afin qu'il le protège, qu'il le fasse fructifier. Parmi les textes qui sont lus au cours de Pessah, il y en a un qui, je sais, vous tient vraiment à cœur. Pouvez-vous nous dire lequel ?
C'est le Cantique de Cantiques, car c'est un poème d'amour, c'est un défi à la logique et à l'ordre et à la méthode.
Oui.
Ce qui à moi particulièrement m'attire.
Vous êtes attaché. Alors, c'est vrai que c'est aussi un poème qui célèbre la nature. Est-ce que, je crois que vous pouvez nous psalmodier quelques versets de ce Cantique des Cantiques qui célèbre la nature, et ensuite j'en donnerai la traduction en français.
D'accord. On va lire, je pense, Pierre, on va lire le...
C'est le chapitre 2.
Chapitre 2.
Verset 16, je crois.
Verset 16.
Oui.
Ana dodi ve'amar li kumilach rayati yafati ulchilach ki hine asetav avar hageshem chalaf halachlo hateena chaneta pageha vehagefanim semada natnu reach kumilach rayati yafati Ulchilach.
Merci. Alors, voici la traduction. Mon bien-aimé élève la voix et dit « Debout, mon ami, ma toute belle, et viens-t'en. Car voilà l'hiver qui est passé, la saison des pluies est finie. Elle a cédé la place. Les fleurs se montrent sur la terre, le temps des chansons est venu. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume par ses jeunes pousses. Les vignes en fleurs répandent leur parfum. Debout, mon ami, ma toute belle, et viens-t'en. » Alors, bien, est-ce que vous pouvez nous donner, Meir, un tout petit peu plus à propos du Cantique des Cantiques, nous donner le sens de ce texte qui est si magnifique?
D'abord, je veux dire pourquoi on le lit pendant la fête de Pessah. C'est un usage, il est très répandu de le lire, le Cantique des Cantiques, dans différentes communautés, soit tout de suite après le céder de Pessah, ce que moi j'ai la tradition de faire de chez mes parents. D'ailleurs, ça m'a permis de l'apprendre presque par cœur.
On a vu ça.
Et le Cantique de Cantique fait partie des 24 livres des Écritures Saintes, que vous appelez l'Ancien Testament.
Oui.
Ce texte est un poème d'amour qui réunit un jeune homme à une jeune femme, mais entre lesquels surgit le roi Salomon, qui désire la même femme. Il ne fait aucun doute que nous sommes devant un poème d'amour. Et le fait que ce texte soit devenu l'un de nos livres saints soulève bien des questions et des réflexions. Une des raisons principales de ce choix de le lire pendant Pessah est que ce cantique est une allégorie qui doit nous montrer ce qu'est l'amour que nous devons porter à Dieu. Et d'ailleurs, pour Maïmonide, qui était une grande figure du judaïsme du fin du XIIe siècle, l'amour de Dieu n'est pas une explosion émotionnelle de l'homme, mais consiste à une élévation de la connaissance de la vérité divine, au même niveau d'authenticité que dans l'amour d'un homme à une femme. Pour lui, l'amour de Dieu passe par le service de Dieu. La pratique religieuse, pour nous les juifs orthodoxes, c'est les 613 commandements.
Oui. Bien, merci, il est temps de nous quitter. Merci Bonnie, merci d'avoir été avec nous pour nous apporter votre éclairage sur la fête de Pessah. Je vous souhaite une très belle fête à vous et à votre famille ainsi qu'à toute la communauté juive. Et puis, bien, nous allons finir en musique avec Esther Lamandier qui chante le chapitre 2 du Cantique des Cantiques.